Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et liberté est le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. Deux numéros d'Évangile et liberté seront envoyés gratuitement à tous ceux qui en feront la demande au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir James Woody, qui est président du mouvement Évangile et Liberté et qui est aussi par la même directeur de la publication du mensuel Évangile et Liberté.
Bonjour Guylaine.
Bonjour James Woody. Alors nous avons tous les deux entre les mains le numéro d'août-septembre 2020 que nous venons de recevoir. Un numéro vraiment qui m'a plu. Hein.
Ah bah j'en suis très heureux.
Oui.
Quelle satisfaction.
Ah, n'est-ce pas? Alors je vous propose, James Woody, de commencer par le dossier dont vous faites l'introduction.
Oui.
Un dossier sur le philosophe et théologien Lessing, de son prénom que je ne prononcerai qu'une seule fois, Gotthold Ephraim Lessing.
Quelqu'un d'assez peu connu, et du coup ça vaut vraiment la peine de découvrir ce dossier pour comprendre que c'est un personnage majeur. Hein. On dit de lui que c'est le plus grand théologien, même depuis Martin Luther, donc à l'époque des Lumières, il est du XVIIIe siècle, et qui va avoir ceci de spécifique, qu'il ne va pas être un théologien enfermé dans une écriture dogmatique, mais qui au contraire va plutôt s'intéresser aux arts, et notamment au théâtre par exemple, pour faire passer des idées qui sont des idées d'un protestantisme très ouvert.
Oui, le vôtre finalement.
Le nôtre, Guylaine.
Le nôtre, c'est vrai. Le nôtre à vous aussi, lecteur d'Évangile et Liberté, futur lecteur peut-être. Voilà, un protestantisme ouvert. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette introduction, James Woody, c'est « Sommes-nous, cette phrase-là qui inaugure et qui est dans l'air du temps, sommes-nous capables de faire autre chose que nous opposer les uns les autres ?» Il est facile de dire qu'aujourd'hui, on est là. Est-on pour les masques, contre les masques? Sommes-nous pour la fermeture des restaurants, contre la fermeture des restaurants? Comme si on pouvait se contenter de ce clivage.
Oui, puis c'est aussi un clivage sur les identités. Français de souche, immigrés, c'est aussi Paris contre la région, c'est aussi les catégories socioprofessionnelles les unes contre les autres, puis c'est toujours croyant contre non-croyant, par exemple.
Donc, or, c'est plus subtil que ça, finalement, la vie.
Ah bah oui, parce que même quand on regarde les panels d'identité, il y a des choses qui sont très transversales. On a l'habitude de dire qu'il y a des fois plus de proximité entre un catholique et un protestant qu'entre deux protestants. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est ce que permet Lessing, c'est de constater que notre identité, elle ne peut pas se faire à base de stéréotypes. Il y a pour chacun ce devoir impérieux de se tenir face à Dieu, pour le dire de manière religieuse, c'est-à-dire en fait de penser soi-même la vie d'une manière absolue. Et ça crée en fait des personnes qui sont capables ensuite d'engager des dialogues. Parce que quand on a pensé pour soi-même et qu'on s'est forgé des convictions, alors on peut les faire entrer en dialogue avec d'autres personnes qui elles aussi ont pensé la vie. Et c'est d'ailleurs comme cela que finit le dossier de Pierre-Olivier Leschaux sur une laïcité bien pensée qui devrait être non pas reléguer le religieux dans les arrière-cours, non pas avoir une laïcité qui ne pense qu'à régler les problèmes qui se posent sur les questions d'alimentation, de vêtements, etc. Mais une laïcité qui permet de brasser les convictions et d'engager un dialogue des uns avec les autres et non pas une identité des uns contre les autres. Là, moi je suis un Français et je ne suis pas comme ces imbéciles de Britanniques qui sont sortis de la zone Schengen, par exemple, ou des choses comme ça.
Alors, en effet, vous avez cité Pierre-Olivier Leschaux, que je n'avais pas encore cité. C'est vraiment c'est lui qui a écrit le dossier.
Oui, c'est ça qui compte.
C'est ça. C'est ça qui compte. Et je me permettrai de redire la phrase, une très jolie, sa phrase de conclusion, en effet, qui est très percutante, repenser la laïcité à partir de ce que Lessing nous dit du frottement des religions et de sa vertu dans la perspective de l'apaisement religieux semble donc une tâche plus qu'urgente.
Oui, il n'y a rien de plus dangereux que des personnes qui ont des idées arrêtées sur les autres sans avoir rencontré les autres. Mmh. Et la laïcité, c'est au fond cette possibilité de pouvoir entrer en conversation avec chacun sans craindre d'être capté par l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion dominante, il n'y a pas des obligations, etc. Chacun a la liberté de faire valoir ses opinions et d'en changer. C'est ça que permet la laïcité aussi. C'est du coup un vrai dialogue parce qu'il se pourrait que l'autre soit porteur d'une vérité qui jusque-là me faisait défaut, que l'on trouve intéressante et à laquelle on adhère. Et c'est ce que dit d'ailleurs Lessing. Il y a des histoires de conversion dans son récit Nathan le Sage. Et c'est ou alors il publie des gens qui se sont convertis à l'islam, ce qui n'était pas vraiment bien vu dans l'Allemagne de l'époque à cause de la Turquie. Et il dit, mais il faut distinguer les idées des clivages géopolitiques, par exemple. Et quand les idées sont bonnes et qu'elles sont dans un camp que l'on estime être le camp de l'ennemi, eh bien, il faut quand même les prendre. Et c'est ça, la recherche honnête de la vérité. C'est une vérité qui n'est pas dogmatique, qui serait dans notre baluchon. C'est une vérité qui est toujours à construire avec l'autre. Et au fond, la religion naturelle dont parle Lessing, c'est la vérité qui est toujours à nouveau disponible, à la condition qu'on en fasse une exploration commune.
Alors, il y a donc cet aspect-là, la laïcité qui est dans ce dossier. Mais vous alertez aussi dans votre introduction, James Woody, sur la question des institutions. On en a parlé dans une autre émission, dans notre matinale en direct. Vous dites « Être théologien consiste à se libérer de toutes les institutions qui censurent la pensée ». Et pourtant, vous disiez aussi que l'institution, c'est un cas dans lequel on peut évoluer en liberté. À partir du moment où on connaît ce cadre-là, dans ce cadre, on est libre. C'est oui. Ça qui compte.
Oui, je pense qu'il faut penser l'institution comme un point d'appui pour pouvoir s'élancer dans une aventure personnelle de la vie. L'institution est, à mon avis, absolument nécessaire parce que c'est le lieu où on institue les choses essentielles de la vie. Par exemple, la liberté. Si personne n'en parle, si personne ne la célèbre, eh bien, elle disparaît. Elle tombe en désuétude. Et les institutions ont ceci de supplémentaire par rapport aux musées qui gardent la mémoire des choses, qu'elles la font vivre et qu'elles en montrent la pertinence actuellement. Vous voyez, on peut se dire, un culte, le dimanche matin dans un temple, c'est assez désuet et c'est sans rapport avec la vie. Eh bien, moi, je ne pense pas. Les prières qui sont dites sont une manière de donner des mots et de pointer des situations qui méritent notre attention à des personnes qui autrement seraient un peu démunies. Et je trouve que offrir des mots et ouvrir les yeux sur des situations, c'est déjà formidable et ça institue une humanité qui est bien ancrée dans le réel.
Alors ça, c'est le dossier sur ce philosophe et théologien Lessing. Alors, on a commencé en disant l'opposition qui est là un peu, présent dans notre société. Et il est étonnant que Maxime Michelet, dans sa Tribune libre, parle de l'emballement permanent des certitudes, où justement cet emballement positionnerait chacun dans un avis, et d'autant plus que cet avis serait même pas fondé, serait même construit sur des ignorances, les gens ne sachant même pas pour qui et pourquoi ils seraient d'accord ou pas. Et voilà, ce parallèle je trouvais très intéressant.
Oui. Il y a une sorte de fièvre. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'emballement. Il y a une fièvre qui consiste à être présent de manière surabondante sur les réseaux sociaux pour exister. Et si on n'a pas un avis sur tout, alors on a le sentiment de ne plus exister. Et je me souviens, le coup stupéfiant, c'est qu'on est des gens qui ignorent tout et qui en parlent avec un aplomb indéboulonnable. Et il faisait état d'une enquête qui avait été menée en disant, à votre avis, est-ce qu'on peut guérir du coronavirus? Et tout le monde aurait dû répondre, je ne sais pas. Et tout le monde avait un avis, grosso modo.
Ouais.
Et ça, c'est un peu cet emballement permanent des certitudes que pointe Maxime Michelet et qui empêche justement le dialogue qui est une recherche de la vérité. L'esprit critique n'existe plus. Et moi, je suis effaré de voir des personnes qui ont des responsabilités importantes prendre pour argent comptant des comptes parodiques ou des médias qui cherchent à amuser la galerie, en pensant que ce sont de vraies informations. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont complètement émoussé leur sens critique et qui ne sont plus capables de faire la part des choses. Et ça, c'est une nécessité sur laquelle il faut vraiment intervenir pour rééduquer les gens, en fait.
La critique et le doute, c'est comme ça que conclut Maxime Michelet sa tribune libre, l'emballement permanent des certitudes, en nous disant « Retrouvons l'humilité fraternelle de nos doutes pour mieux conjurer le poison des factions bardées de vaines certitudes ». Cette phrase-là, elle est aussi emblématique de son style à Maxime Michelet, qui est très lyrique dans cette tribune libre.
Oui, il a une très belle plume et c'est heureux d'avoir des gens qui savent écrire de si belles manières. Et puis il dit juste, c'est-à-dire que le doute est vraiment un outil au service de la vérité et certainement pas l'ennemi de la foi ou l'ennemi de la vérité. Au contraire, la démarche scientifique est une démarche qui se fonde sur le doute. Est-ce que vraiment Dieu habiterait dans cette maison, se demande Salomon? Eh bien, c'est cela que nous devons faire en permanence. Est-ce que vraiment ça marche comme ça?
Vérifier.
Voilà. Et c'est ce que fait d'ailleurs Lessing. Il remet en cause des dogmes qui semblent bien établis.
Alors, James Woody, vous signez dans ce numéro de juillet-août, d'août-septembre 2020, l'éditorial. Alors, ce n'est pas toujours vous, il se trouve que c'est vous. Et là, vous faites un plaidoyer pour la lecture de la Bible. Vous dites notamment... textes bibliques sont d'incessantes polémiques contre l'ordre établi, contre l'esprit d'orthodoxie. Là encore, on retrouve cette façon de voir le monde en ce moment, contre, pour, et vous luttez contre cela. C'est pas seulement ça.
Oui, ce qui est intéressant dans les textes bibliques, c'est de voir comment ils ont été écrits. Je pense par exemple dans la Bible hébraïque, les livres de Samuel et livres des rois sont vraiment un millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a des générations qui se sont succédées avec parfois des corrections apportées par la génération suivante, voire des contre-pieds. Et on peut se dire, du coup, il y a des contradictions, c'est insupportable, ça n'a aucune valeur. Bien au contraire. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire une approche historique et critique pour voir quelle était la situation de l'époque et de voir comment les penseurs de l'époque, les théologiens de l'époque, se sont positionnés pour donner de nouvelles impulsions. Et donc, une situation à, je ne sais pas, le 8e siècle avant notre ère, la chute du royaume du Nord, évidemment pas la même du 7e siècle ou 6e siècle quand il y a la chute du royaume du Sud. Et donc, ce qui est toujours important, c'est de remettre les choses en contexte pour voir comment des gens ont essayé d'aller dans le sens d'une plus grande justice ou d'une plus grande liberté pour que nous-mêmes, nous fassions cela aujourd'hui. Et donc, les textes bibliques sont extrêmement subversifs parce que quand on les regarde, on se rend compte qu'ils refusent l'ordre établi par un pouvoir qui devient très autoritaire avec Salomon, Roboam. Les textes bibliques qui ont été conservés comme textes qui, pour nous, sont fondamentaux, conteste le pouvoir en place, parce que c'est un pouvoir qui opprime, c'est un pouvoir qui empêche, c'est un pouvoir qui tue la créativité, qui étouffe. Et ça, c'est insupportable pour les théologiens de l'époque.
Je vous garde encore un petit quart d'heure, James Woody, tout de suite après la pause musicale. Évangile et liberté, c'est l'émission dans laquelle on parle du journal Évangile et liberté, penser, critiquer et croire en toute liberté. Je le répète, ce journal est disponible gratuitement si vous appelez Karim au 09 53 43 45 71. Il vous envoie 2 exemplaires. Alors, je suis en compagnie de James Woody et nous avons commencé par dérouler ce numéro d'août-septembre en commençant par le dossier qui a été rédigé par Pierre-Olivier Leschaud et qui a été... qui est présenté par James Woody. Mais j'aimerais vous entendre, James Woody, sur votre présidence du mouvement Évangile et Liberté. Prochaine Assemblée Générale, tout bientôt.
Oui, au mois d'octobre.
Au mois d'octobre. Et vous allez, quoi ? Comment je dois dire ?
Je n'ai pas demandé le renouvellement de mon mandat. Donc,
j'attendais la phrase institutionnelle.
Après 11 ans de présidence d'Évangile Liberté, je trouve qu'il était temps de passer la main pour ne pas devenir quelqu'un d'indispensable, ce que je ne suis pas au demeurant, et de pouvoir confier la présidence à une autre personne qui sera élue par le prochain conseil d'administration. Michel Jass avait été président avant moi, il avait eu une présidence. J'ai eu la mienne, le successeur aura la sienne. Moi, je me suis évertué à inscrire Évangile Liberté dans le paysage religieux français. Il n'est pas impossible qu'il faille ensuite penser l'international. Ça serait intéressant.
L'européen, l'international.
Mais je pense qu'il y avait ces dernières années un besoin de... Je dirais de régulation du champ religieux en France, parce que de nombreuses questions sur la laïcité se sont posées. Il y a eu aussi, au sein de l'Église protestante unie de France, le débat sur la bénédiction des couples de personnes de même sexe. Il y a...
En 2012
Oui, à 7 d'ailleurs. Il y a un phénomène de superstition assez important. Et puis, il y a le domaine des idées où la voix protestante est rarement entendue. Alors, avec François Clavier-Houlli, président de la Fédération protestante de France, je pense que la voix protestante a été beaucoup mieux entendue. Mais il faut aussi entendre la petite voix libérale qui permet peut-être de donner aux théologiens protestants les moyens d'entrer vraiment dans cette conversation avec ceux qui ne sont pas protestants. Parce que le propre de la théologie libérale, c'est de prendre l'autre au sérieux, de prendre l'expérience de l'autre au sérieux. Et du coup, un vrai dialogue s'engage, qui n'est pas un dialogue de sourds ou un dialogue de « je vais te convaincre que c'est moi qui ai raison ». Et puis, on est quand même dans une société qui est passée par quelques crises économiques, quelques crises liées au terrorisme, maintenant crise sanitaire. Et je pense qu'il était important de rappeler que la grâce nous conduit à la joie et l'optimisme. Et éviter une société qui se referme sur elle-même, une société du repli. Et le protestantisme d'ouverture, qui est la nature même du protestantisme libéral, avait sa carte à jouer. Et c'est plutôt là-dessus que j'ai essayé d'emmener les gens, en évitant les affrontements. Vous voyez, on pourrait se dire qu'il y avait le clivage libéraux-orthodoxe qui était vraiment une bonne façon d'exister. Ça, c'est quelque chose que j'ai refusé. Et on n'a pas essayé de développer un esprit de chapelle, on a essayé de développer un mouvement libéral qui fasse des propositions de sens et qui ne passe pas son temps à critiquer les autres, parce que bon, ça n'a aucun intérêt. Il faut déconstruire, il faut casser ce qui est de l'ordre de l'idole ou de l'ordre de la fausse idée ou de la mauvaise vérité, mais il faut aussi faire des propositions de sens pour que les gens aient des choses auxquelles adhérer pour vivre. Il ne faut pas vivre contre.
Voilà, ça c'était vraiment votre cheval de bataille.
Oui.
Voilà. Et vous laissez un mouvement, je pense, qui a grossi dans ses abonnés, notamment au journal.
Non, je ne pense pas qu'on ait plus d'abonnés, mais je pense qu'on a plus de personnes qui connaissent le journal. Alors, on me dira que ce n'est pas très rentable sur le plan économique. Mais je pense que j'ai travaillé sur la notoriété du magazine et puis du mouvement. Et on le voit par le fait qu'il y a une plus grande diversité des plumes, je crois, dans Évangile et Liberté. Ce qui était aussi la volonté de Raphaël Picon quand il était rédacteur en chef. Mais j'ai veillé à ce que ce soit vrai et que ce ne soit pas trop non plus parisien comme mensuel. On s'est ouvert notamment sur la Suisse de façon plus importante, et puis des personnalités venues de différents horizons. On a eu aussi des personnalités étrangères très intéressantes, comme Marilyn Robinson, par exemple, Michael Walzer. Ça sont des pointures anglo-saxonnes qui ont eu leur place pour des dossiers dans Évangile Liberté.
Et puis, vous continuez d'ailleurs, dans ce numéro d'août septembre 2020, il y a un article d'Abigail Bassac qui présente un ouvrage de Brian Jerisch sur c'est un dogmaticien, un théologien, sur sa dogmatique et qui aborde la notion de foi élémentaire.
Oui, je trouve que c'est intéressant de voir comment Abigail Bassac présente un théologien extrêmement utile pour aujourd'hui. Si je le disais de façon un peu polémique, si seulement tous les pasteurs en France faisaient le travail de Brian Gerrish, c'est-à-dire traduire les concepts théologiques en phrases compréhensibles et utiles pour la vie quotidienne de n'importe qui en France, ça serait vraiment formidable. La foi élémentaire, c'est ce que nous partageons tous, que nous soyons croyants ou non. Nous avons besoin de confiance. Hein, on a parlé de la société de confiance à un moment donné. La société de confiance, elle se construit aussi par la théologie, puisque la confiance, c'est la foi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les concepts de la théologie peuvent aider les gens à construire leur vie personnelle avec la grâce. Est-ce que la grâce a sa place dans le monde professionnel, dans l'économie, dans la justice ? Est-ce qu'on peut imaginer comment le baptême a quelque chose à dire ? Moi, par exemple, le baptême, c'est une façon de dire que tu n'as pas besoin de faire tes preuves pour avoir ta place dans la société humaine. Ça t'est donné d'emblée. Bon, vous voyez, quand on le dit comme ça, je trouve que c'est plus intéressant que le sacrement du baptême qui crée une union mystique avec le corps divin ou je ne sais quoi. Si la Trinité peut avoir un sens, c'est de dire que Dieu est se rend compte de multiples manières et que ce n'est pas quelque chose de monolithique et que du coup la vérité elle-même peut se rencontrer de multiples manières dans notre vie aujourd'hui. Donc il y a tout ce travail que fait ce théologien dont Abigail le rencontre de façon excellente, je trouve.
Le livre est en anglais ?
Oui, ça serait à traduire. Mais en tous les cas, ne serait-ce que lire l'article, ça peut nous inciter à faire ce travail de...
Est-ce que ce serait désacraliser le vocabulaire ou c'est autre chose ?
Ça serait le réinvestir.
Le réinvestir.
Et ça serait le réinjecter aussi dans la vie ordinaire, dans la vie profane. Montrer qu'il n'y a pas de séparation entre une sorte de vie sacrée et une vie profane. Le sacré est là pour donner de l'ampleur au profane. Il y a une sorte de profanation du sacré ou de sacralisation du profane. Vous faites ça dans le sens que vous voulez.
Alors, vous avez dit avoir ouvert vos colonnes à des rédacteurs qui étaient absents il y a peut-être 10 ans, 5 ans. Mais il y a deux rédacteurs de notre revue que je suis persuadée que nos lecteurs aiment et peut-être se jettent sur leurs articles quand il est signé par eux. Ce serait Laurent Gagnebin et André Gounel. Et sur un sujet, en effet, qui doit aussi concerner beaucoup de paroissiens, probablement, faut-il faire église ?
C'est ça. La grande exhortation coercitive, il faut faire église et au nom de l'église on va sacrifier les égos, on va sacrifier les convictions, on va sacrifier l'enthousiasme.
Disent Laurent Gagnebin et André Gounel.
Bon, je vous recommande de lire l'article qui vaut la peine. On pourrait, pour compléter...
N'idéalisons pas nos églises,
Ah ben non, parce que ce n'est pas le but. Et ce qui est intéressant, c'est de reprendre justement l'approche du théologien allemand Schleiermacher, qui dit il n'y a pas Dieu, l'Église et les croyants. Il y a Dieu, les croyants et l'Église. Non pas au sens où il faudrait que tout converge vers l'Église, mais au sens où chaque croyant est au contact direct de Dieu, et l'Église est une sorte d'organisation que nous nous donnons pour faciliter les choses et pour assurer la transmission à d'autres, et notamment à la génération suivante. Mais le but, ce n'est pas l'Église. On n'est pas là pour faire Église. Et alors, le pire, c'est quand mes collègues se moquent, parce que maintenant, ça devient une sorte de blague qu'ils me disent, quand il s'agit que l'Église soit cool ou sympa. Ouais, il faut que ça soit sympa, l'Église. Ouais, l'Église, elle n'est pas là pour être sympa. L'Église, elle est là pour faire de nous des êtres bien charpenté, qui soit capable de mener une existence autonome. Et donc, pour cela, il faut se coltiner les questions ultimes de l'existence en direct. L'Église est là pour offrir une caisse de résonance, pour offrir des outils pour penser, des outils pour réfléchir. Mais en dernier lieu, il y a une instance de jugement qui est l'individu. Et c'est ça qu'il ne faut jamais sacrifier sur l'autel de la communauté ou de l'Église.
Alors, Évangile Liberté, il y a bien sûr plein d'autres rubriques. Voulez-vous en sortir une ou deux complémentaires ? Il y a toujours le commentaire biblique, il y a toujours la vue d'ailleurs.
Je trouve que c'est important de dire qu'il y a toujours un commentaire biblique, parce qu'il y a cette curieuse idée sur laquelle les théologiens libéraux ne lisent pas la Bible. Et nous, on a toujours un commentaire biblique qui n'est pas une paraphrase, qui est une réflexion d'un théologien, d'une théologienne ici, Darla Sloan, sur ce que cela provoque en soi et ce que cela donne à penser pour, là encore, notre vie quotidienne. Je trouve qu'il est toujours intéressant d'intégrer un texte biblique dans sa réflexion personnelle parce que ça nous décale. À la fois, c'est exotique, et donc c'est toujours une parole utile. Et puis, comme on le disait, la Bible, c'est subversif. Et donc, ça évite de s'encrouter dans des choix de vie qu'on a fait une fois pour toutes.
Toujours un commentaire biblique, toujours aussi une vue d'ailleurs, et là une vue d'ailleurs de Jeanne-Marie Gagnebin sur le Brésil. Donc vraiment en prise avec l'actualité. Parfois c'est difficile d'être en prise avec l'actualité quand on a un numéro mensuel, et là encore oui. Plus difficile.
Là c'est une actualité qui dure, c'est le rapport entre le politique et les religions du courant évangélical, donc au Brésil, avec les méfaits que cela peut produire. Ça ne remonte pas à ces dernières années, hein. Je pense au travail d'observation qu'avait fait le sociologue protestant Jean-Pierre Bastian, qui montrait qu'il y avait une utilisation de la misère qui était instrumentalisée en faveur d'un vote et d'une emprise politique, une emprise économique d'ailleurs. Hein, on instrumentalisait la pauvreté pour avoir un corps électoral finalement. Ça, c'est tellement contraire à la grâce. C'est tellement contraire à ce que devrait être le protestantisme, et a fortiori n'importe quelle religion, j'imagine. Donc c'est intéressant de voir Jeanne-Marie Gagnebin qui, elle, est en prise directe avec la situation au Brésil, puisqu'elle
vit
y
là-bas,
est.
Oui.
De pouvoir nous apporter un éclairage qui n'est pas un éclairage d'un Français qui parle de l'Amérique du Sud comme on a des Français qui parlent de l'administration Trump en n'y connaissant rien du tout. Donc là c'est un point de vue informé et qui nous rend attentifs aussi à des dérives que l'on pourrait avoir en France. Donc la laïcité est un cadre qui nous prémunit en principe de ce risque de dérive, mais c'est là où il faut être vigilant dans les deux sens.
Merci James Woody pour ce partage autour du dernier numéro d'Évangile et Liberté. Je le répète, ce numéro est tout à fait accessible en téléphonant à Karim au bureau d'Évangile et Liberté à Paris, 09 53 43 45 71. Et il y a des relais aussi sur Facebook, il y a un site internet. On peut de toute façon avoir beaucoup d'articles, beaucoup de points de vue, beaucoup d'opinions sur les réseaux internet.
Tous les articles qui ont plus d'un an sont en libre accès sur le site internet evangile-et-liberté.net.
Je vous remercie, James Woody, pour
vous,
ce
Hélène.
Dynamisme et cette joie à nous faire partager l'Évangile.
Yalla.
Au revoir.